spéciale votation.
C'est le moment de notre dernier débat en vue des élections fédérales du 28 février. Léandre Béret, Audrey Fasnacht et leurs invités sont en direct. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue sur RJB, RTN et RFJ pour le quatrième et dernier débat consacré aux votations fédérales. Ce soir, nous abordons l'initiative du PDC pour le couple et la famille, non à la pénalisation du mariage. Pour en débattre, nous accueillons Anne Sédou, conseillère aux États démocrates chrétiennes jurassiennes, et le conseiller aux États socialistes neuchâtelois, Didier Berberat. Bonsoir.
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 L'initiative qui nous intéresse demande que le mariage ne soit pas pénalisé par rapport à d'autres modes de vie, notamment en matière d'impôts et d'assurance sociale. Le mariage doit être l'union durable et réglementée par la loi d'un homme et d'une femme et constituer, au point de vue fiscal, une communauté économique. Nous allons donc aborder deux axes principaux durant cette demi-heure. D'une part, l'aspect financier lié à ce texte et d'autre part, la question de la définition du mariage.
Alors commençons par les enjeux fiscaux de cette initiative déposée par votre parti, Anne Sédou. Vous estimez que les couples mariés sont pénalisés par rapport aux concubins. Concrètement, de quelle manière sont-ils pénalisés ?
Alors tout d'abord, ce n'est pas nous qui estimons, c'est le tribunal fédéral qui a déjà jugé en 1984 que les couples mariés étaient pénalisés vis-à-vis des concubins, et depuis 2007 également les partenaires enregistrés, et sur le plan fiscal, et donc il y avait lieu de supprimer cette inégalité de traitement entre les couples mariés et les concubins. Et donc le PDC demande à ce qu'on supprime cette inégalité, en laissant une marge de manœuvre au Conseil fédéral pour juger du modèle à proposer, mais dans le cadre d'un modèle où on voit le couple comme une communauté économique. Et le PDC, effectivement, ne veut pas de l'imposition individuelle. Et on voit que cette inégalité qui est reconnue par tous depuis 1984 n'arrive pas à trouver un consensus au Parlement quant au modèle à suivre pour l'imposition de ces couples et pour supprimer cette inégalité. C'est pour ça que le PDC a fini par lancer cette initiative populaire.
Alors Didier Berberat, vous êtes socialiste, votre parti combat le texte, comme d'ailleurs le PLR, les Verts et les Verts libéraux. Pourtant actuellement, les couples mariés paient plus d'impôts pour toucher moins d'AVS. Il n'y a donc pas d'injustice selon vous ?
Non, alors je crois que ce qui est sûr, c'est qu'on est tous d'accord pour supprimer la pénalisation des couples mariés en matière de fiscalité et d'assurance sociale. Je crois que là, le problème ne se pose pas. Le problème est le suivant, c'est que la solution que le PDC préconise nous pose problème d'abord parce qu'on a une définition beaucoup trop restrictive du mariage à nos yeux. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on essaie de trouver des solutions. Nous, la solution, c'est pas simplement ne plus pénaliser le mariage, mais c'est passer à l'imposition individuelle qui permettrait justement d'avoir une solution neutre qui fasse qu'en fin de compte, les gens choisissent avec qui ils veulent vivre, comment ils veulent vivre, alors même que l'initiative du PDC va un peu bloquer les choses, parce que si on inscrit dans la Constitution le fait que le mariage, c'est l'union durable et réglementée d'un homme et d'une femme, ça signifie qu'il n'y a plus d'autres possibilités de prévoir des unions, notamment le mariage pour tous. Donc c'est ça qui nous pose problème. D'ailleurs, Mme Sédou le sait très bien, on a souhaité avoir un contre-projet direct qui aurait fait que dans la Constitution, on disait clairement qu'on arrêtait avec la pénalisation du mariage au niveau fiscal et des assurances sociales. Et là, malheureusement, le contre-projet n'a pas passé parce que notamment le PDC a voté contre.
Anne Sédou, oui.
Alors, par rapport au premier contre-projet qui était présenté au Conseil national, je crois que même Mme Wiedemann-Schlumpf y était opposée parce qu'il n'y avait pas un modèle qui était proposé et on serait reparti dans 30 ans de débat au Parlement sans trouver de solution. Et l'avantage de notre solution, c'est l'imposition commune qui est la solution choisie sous différents modèles par les cantons pour rectifier cette inégalité de traitement entre les couples mariés et les concubins. Donc les cantons n'ont pas choisi l'imposition individuelle. Et puis, ce qu'on ne dit jamais, et ça m'étonne toujours, c'est que cette imposition individuelle, non seulement elle a un coût, qui est évalué dans le message du Conseil fédéral entre 2 et 2,35 milliards, ce dont personne ne parle.
C'est ce que va coûter votre initiative, d'ailleurs.
Et non, la nôtre peut coûter moins si on utilise le
splitting
paritiel.
On va peut-être en discuter plus tard. Ça dépend du calcul.
Mais donc, l'imposition individuelle a un coût. Elle n'est pas neutre du point de vue des coûts. Elle coûte aussi beaucoup d'argent. Et en plus, elle a le gros désavantage d'entraîner une bureaucratie beaucoup plus importante de 30 à 50 %, toujours d'après les estimations des cantons Fédération et du Conseil fédéral. Et je relève encore qu'en Allemagne, où les couples ont le choix entre l'imposition individuelle et l'imposition commune, eh bien, il y a moins de 10% des couples qui choisissent l'imposition individuelle parce que c'est un exercice très compliqué.
Je ne vois pas en quoi c'est compliqué, mais enfin, il faudra m'expliquer en quoi ça, c'est plus compliqué que le fait d'avoir une imposition de couple. Simplement, on part du principe que chaque individu, que ce soit un homme, une femme, ou deux hommes qui vivent ensemble, deux femmes ensemble, ou un homme et une femme qui vivent ensemble, sont taxés séparément, et simplement, on n'a plus de problème d'inégalité, puisqu'en fin de compte, tout le monde est traité de la même façon. Donc, c'est vrai que ça aura un coût, ce ne sera pas plus cher d'ailleurs que votre initiative, et ça permettra justement d'avoir une neutralité fiscale sur le mode de vie des gens.
Alors on va continuer avec les coûts tout à l'heure. Pour l'instant, Anne Seydoux, vous voulez supprimer la pénalisation des couples mariés. Mais finalement, votre texte, selon le message du Conseil fédéral, ne va toucher que 5% des familles. Est-ce que le rôle du PDC, c'est pas de soutenir plus largement toutes les familles ?
Ça, c'est vous qui dites que ça va toucher que 5% des familles. Je constate que ça va toucher effectivement des couples mariés, plus de 80 000 couples mariés à deux revenus. Avec différents modèles de couples, mais également des couples mariés de retraités. Et quand on parle de nantis, dans le message, il est aussi précisé que c'est des couples mariés de retraités qui sont concernés à partir d'un revenu en rente de 50 000 francs, donc on ne peut pas dire qu'on parle d'ultra riches, ou de 60 000 francs selon la répartition des revenus. Donc par rapport à ça, je crois qu'on a des raisons de vouloir cette égalité de traitement. Et puis deuxièmement, l'égalité de traitement, elle ne doit pas dépendre du revenu des couples. C'est un principe de base de notre état de droit, aussi bien que le principe de proportionnalité. Et je ne vois pas pourquoi les couples qui ont un certain revenu, et notamment les couples de la classe moyenne, ne pourraient pas bénéficier de cette équité fiscale. En plus, ça touche ce désavantage fiscal, essentiellement les femmes. Alors on veut que les femmes travaillent, on veut que les femmes fassent carrière, on veut que les femmes retournent au travail, mais en même temps, on continue à les pénaliser de manière importante en matière fiscale. Et pour revenir sur l'AVS, malgré les arguments du Conseil fédéral, nous estimons qu'il n'est pas juste et équitable que des couples qui ont déjà payé plein pot pendant toute leur vie professionnelle ne touchent que 150% de rente AVS à la retraite. Alors le Conseil fédéral nous dit, oui, mais globalement, si on considère les rentes de veuve notamment, on peut considérer que les couples mariés sont mieux traités. Je trouve que c'est quand même une manière de réfléchir assez particulière, parce que finalement, on dit aux couples, vous paierez toute votre vie plus que les concubins. Pendant votre retraite, qui peut quand même durer, vu l'espérance de vie, à peu près 15 ans, vous serez aussi pénalisé. Puis quand enfin votre mariage sera terminé, puisque la mort met fin au mariage, eh ben, vous serez plus à l'aise que les concubins. Je trouve ça assez particulier comme mode de fonctionner.
Didier Berbera, si on revient au nombre de personnes qui seront touchées par cette initiative.
Oui, alors effectivement, c'est 80 000 personnes à peu près sur 4 millions. Et l'effet, bon, Madame Seydoux a parlé des retraités, mais l'effet, il a été calculé. L'initiative du PDC aurait un effet à partir d'un revenu de 190 000 francs net. Si on part du principe que le mari travaille à 100%, la femme à 50%, ou en tout cas un des membres du couple à 100%, l'autre à 50% avec enfant. Donc ce qui veut dire qu'on va favoriser surtout une minorité de personnes. Et c'est vrai qu'il y a une égalité actuellement. Nous, on souhaite alors absolument trouver une solution. Pour moi, l'imposition individuelle est la meilleure des solutions. C'est vrai que le tribunal fédéral a décidé en 1984 qu'il y avait une égalité. Les cantons ont trouvé des solutions. L'initiative va nous coûter entre 1,2 milliard et 2,3 milliards. Ça dépend, on ne veut peut-être pas entrer dans les détails. Si on utilise le calcul alternatif de l'impôt, le splitting intégral ou le splitting partiel, c'est des différences de coûts à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a aussi une différence en matière d'assurance sociale, mais on a calculé que le désavantage d'avoir une rente à 150% pour les couples mariés et pas deux rentes à 100%, c'est à peu près 2,4 milliards de pertes. Et il a été aussi calculé par l'Office fédéral d'assurance sociale qu'en fin de compte, le splitting, le fait d'avoir une rente de veuf ou de veuf, coûtait 2,8 milliards de plus, ce qui veut dire que l'un dans l'autre, il y a une sorte d'égalité. Alors, il faut que Mme Seydoux me dise d'abord si elle est favorable à une rente à 200%, ce serait intéressant qu'on puisse en discuter. Et puis, j'aimerais bien qu'elle m'explique pourquoi, en fin de compte, le fait qu'on ait fait ce contre-projet direct, qui disait notamment qu'on ne pouvait pas pénaliser les couples mariés, en laissant tomber cette espèce de conception de 1915 du mariage, pourquoi le PDC n'a pas accepté ça? Parce que ça aurait été une solution qui aurait permis à la fois de faire tomber inégalité et de permettre quand même l'imposition individuelle.
Alors, on parle de l'AVS, peut-être juste que pour que tout le monde soit à pied d'égalité, l'argument et enfin la volonté également de l'initiative du PDC, c'est de supprimer une injustice que subissent les retraités mariés qui ne perçoivent donc que 150% de la rente AVS individuelle maximale alors que les concubins en touchent 200%. Comme ça, on est au clair.
Alors, c'est ça.
Didier Berbera, pour vous, les retraités mariés ne devraient pas pouvoir recevoir une rente maximale de 200%?
Moi, je pense qu'il faut augmenter les rentes de toute façon pour tout le monde. Hein. Ça, c'est déjà la première des choses. Puis ensuite, il faut qu'on regarde ce qu'il en est. Mais simplement, il y a des plus et il y a des moins. Alors, c'est clair qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, simplement, le fait, quand on est marié, d'avoir une rente de veuf ou de veuve, d'avoir un splitting, ce que n'ont pas les célibataires, a justement ce coût de 2,8 milliards, alors même que le désavantage est de 2,4 milliards. Donc, à mon avis, moi, je suis prêt à tout remettre sur la table pour faire en sorte qu'on trouve une solution pour éviter ces discriminations. Mais il n'y en a pas financièrement, si vous voulez. C'est vrai que, d'un côté, il n'est pas normal que deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées touchent deux fois 100% et des personnes qui sont mariées touchent 150%. Mais à ce moment-là, il y a des avantages qui pourraient tomber. Et moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on enlève certains avantages aux couples mariés.
Madame Sédou, vous voulez réagir?
J'aimerais revenir sur deux choses. D'abord, sur les chiffres avancés par M. Berbera par rapport aux couples qui seraient touchés sur le point fiscal, quand même. Parce que les socialistes arrivent toujours avec ce chiffre de 190 000 francs.
Oui.
Dans le message du Conseil fédéral, c'est les couples mariés à deux revenus sans enfants à partir d'un revenu net de 80 000 francs si la répartition est de 50-50 ou d'environ 110 000 francs si la répartition du revenu est de 70-30. Ensuite, les couples mariés à deux revenus avec enfants à partir d'un revenu net de 120 000 francs si c'est 50-50 et 190 000 francs si c'est 70-30. Donc il faut quand même aussi préciser les choses.
Mais ce n'est pas les chiffres socialistes.
Le PLR
utilise les mêmes chiffres.
Et pour les couples, oui, ben, ce n'est pas un argument pour moi. Et
non, mais
ce
n'est pas simplement une spécificité socialiste.
Moi, je prends le message du Conseil fédéral et pour les couples mariés de retraités, donc comme je l'ai dit, on part d'un revenu à 50 000 francs. Par rapport aux rentes AVS, j'aimerais aussi préciser que dans le projet prévoyance 2020 en matière de prévoyance professionnelle, le Conseil fédéral propose une limitation des rentes de veuves, même une réduction du montant des rentes de veuves, qui ferait une économie de 340 millions de francs. On s'y est opposé au Conseil des États, mon parti s'y est aussi opposé, mais on ne sait pas comment ça va se passer par la suite. Donc, penser que la rente de veuve est une compensation ad vitam aeternam de la situation en matière de rente AVS, c'est pas non plus très correct de dire comme ça à la population.
C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil fédéral et puis l'administration fédérale des contributions.
Et donc, par rapport à ça, je crois qu'il faut aussi que les gens voit que, et c'est aussi indiqué dans le message, qu'il y aura peut-être une révision dans ce domaine également. Donc voilà, par rapport au contre-projet direct, le PDC, par rapport au premier contre-projet direct proposé, comme je l'ai déjà dit, ne voulait pas de la solution proposée parce que, justement, elle ouvrait
tous
les modèles.
Parce qu'on n'avait pas le mariage homme-femme,
c'est ça ? Non, pas du tout.
Je crois que c'était une question idéologique.
Parce qu'elle ouvrait tous les modèles possibles et que donc on retournait dans le débat qu'on a depuis plus de 30 ans sur la concurrence entre imposition individuelle ou imposition commune. Et ça, on n'en voulait pas. Et d'ailleurs, le Conseil fédéral, à l'époque, n'en voulait pas non plus.
Moi, ce que je ne comprends pas, Mme Sédou, c'est cette obstination, mais pas la vôtre, parce que je vous connais assez pour savoir que vous avez un peu de distance face à ça, mais pourquoi absolument vouloir mettre dans la Constitution l'union d'un homme et d'une femme, l'union durable et réglementée?
Ça, c'est la deuxième partie du débat,
ouvert,
je crois.
Voilà, on en parlera d'ici quelques minutes, M. Berbera.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Pour l'instant, Anne Sédou, donc le texte du PDC définit le mariage comme une entité économique. Si le texte est accepté, ça fermera complètement la porte à l'imposition individuelle. Selon les opposants, ce ne serait pas une bonne solution contre la pénalisation fiscale des couples mariés, cette imposition individuelle?
Alors, apparemment, c'est une bonne solution, mais comme je l'ai dit auparavant, en réalité, les gens qui ont le choix de choisir la position individuelle ou l'imposition commune ne le font pas ou très peu, parce que ça arrive dans les ménages aussi déjà constitués. On ne parle pas seulement des ménages qui commencent leur vie. Et il faut voir comment on se répartit la fortune, comment on se répartit les déductions, comment on se répartit. Donc c'est plus compliqué certainement pour les couples que de remplir une seule déclaration.
Et au nom du mari d'ailleurs.
Au nom du mari.
Mais
je pense que les femmes figurent aussi, sur la... et signent aussi, en tout cas chez nous, la déclaration fiscale, monsieur Berbera. Donc je crois que de ce point de vue-là, on a fait des progrès. Et en plus, souvent, il y a un des deux époux, et ça peut être la femme qui amène moins de revenus parce qu'elle s'occupe des enfants, etc., que le conjoint, donc, ou le partenaire enregistré. Donc voilà, il faut voir la réalité de manière pragmatique. Et si je lis certains commentaires, même de profs de droit fiscal, ils disent commençons déjà par supprimer cette inégalité entre les concubins, les partenaires enregistrés, les couples mariés, les partenaires enregistrés, les concubins. Et puis ensuite, si vraiment il y a des choses encore à améliorer, eh bien, on pourra revoir les choses. Je relève quand même que le Conseil fédéral, même dans sa brochure de vote, dit ceci: le Conseil fédéral s'est d'abord déclaré favorable à l'initiative, il a plus pu le faire après pour des raisons institutionnelles. Il a considéré qu'elle allait permettre de supprimer totalement la pénalisation fiscale que subissent les couples mariés. Et dans son message, il disait même que c'était une priorité pour lui de mettre fin à la discrimination qui frappe les couples mariés dans le domaine de l'impôt fédéral.
C'est ce qu'on demandait dans le contre-projet. Voilà. Sans le mariage, l'union durable et réglementée.
Non, sans modèle d'imposition, surtout.
Vous n'en avez pas voulu, vous n'avez pas voulu de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, ce qui nous pose problème, on y reviendra, c'est cette définition vraiment obsolète du mariage. C'est ça le problème.
Didier Berbera, vous êtes neuchâtelois et dans votre canton, c'est le système du splitting partiel, donc oui, qui n'est pas ça. Comme l'imposition individuelle qui est en vigueur. Le PS n'est pas favorable à ce système, ça ne fonctionne pas bien, Neuchâtel ?
Écoutez, ça fonctionne relativement bien, mais simplement, c'est clair que moi, je pense que le fait que chaque personne qui gagne quelque chose soit un sujet fiscal est une bonne chose. Le fait qu'on mette sur la déclaration du mari la femme avec le revenu de la femme, ça me paraît être quelque chose, c'est un peu une sorte de tutelle encore du mari sur la femme. Moi, c'est pour ça que je pense que les gens sont des sujets économiques, même s'ils forment une union, et puis qui sait, mais ça pose pas de problème. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est que le droit fiscal soit neutre au niveau du choix de vie qu'on peut faire. Une grande majorité des gens, c'est des unions hétérosexuelles, ça pose, c'est très bien, mais pourquoi pourquoi fermer la porte à d'autres solutions? Et puis c'est vrai que la solution de Châteloise, pour l'instant, celle du splitting partiel, c'est une solution qui est la moins mauvaise possible, mais je pense que l'imposition individuelle serait beaucoup meilleure.
Alors, un autre argument des opposants, c'est le coût de cette initiative. On en a déjà un petit peu parlé. Un coût qui est estimé à environ 2 milliards de francs supplémentaires par année. Anne Seydoux, est-ce que l'État peut vraiment se permettre de telles dépenses?
Non, le coût est estimé, selon le modèle, entre 1,2 et 2 milliards. Donc, voilà.
Jusqu'à 2,3.
Selon le type de modèle qu'on prend. Donc, ça peut être aussi 1 milliard et demi ou 1,2 milliard. Oui, je pense que la Suisse peut se permettre ce manque de recettes qui permettra aux ménages de l'injecter dans l'économie et dans d'autres utilités. Je crois qu'on vient toujours avec ce type d'argument chaque fois qu'on veut des réductions fiscales. Bon, on verra bien avec l'initiative AVS Plus du PS qui va coûter entre 4 milliards et 5,3 milliards comment les gens vont dire si on peut se le permettre ou pas. Aussi, je veux dire, il y a une inégalité de traitement. On voit que les comptes de la Confédération ne sont pas si mauvais, malgré...
Non, 2,3 milliards, c'est exactement ce que va coûter votre initiative au maximum.
Non, notre initiative peut coûter moins. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait se le permettre. Et que c'est la question, c'est dans un état de droit comme le nôtre, est-ce qu'il est correct et légitime de supprimer une inégalité fiscale qui frappe les couples mariés à deux revenus et les rentiers retraités à deux revenus? Ou bien est-ce qu'on peut faire comme si ça n'existait pas parce que c'est des gens qu'on estime suffisamment nantis d'un point de vue financier. Et moi, je pense que les principes valent dans tous les domaines, les principes du droit et également en matière fiscale. Et je ne vois pas pourquoi la classe moyenne ferait toujours les frais de toutes les opérations, paierait toujours plein pot, alors que là, c'est une inégalité qui est reconnue, on l'a bien entendu par Didier Berbera, par tous les partis.
On était prêts avec le contre-projet à Madame Seydoux, je ne voudrais pas faire une fixette là-dessus, mais on était prêts à dire qu'il fallait, dans la Constitution, mettre qu'on arrête avec cette pénalisation du mariage. Tout le monde était d'accord. Ceux qui n'ont pas voulu voter, c'est le PDC. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on n'aurait pas ce débat
maintenant.
Le PDC ne
fait pas une majorité à lui tout seul, ni dans une chambre, ni dans l'autre, M. Berbera, vous le savez.
Je sais. Mais entre ceux qui n'en voulaient pas et le PDC qui souhaitait absolument maintenir son initiative, ça faisait une majorité. Je le regrette, 22 à 20.
Alors on va passer maintenant au deuxième axe de cette initiative populaire, la définition du mariage comme l'union entre un homme et une femme. Une définition qui a suscité d'innombrables réactions car elle exclut les couples homosexuels du droit au mariage. Anne Seydoux, ça veut dire que vous êtes contre le mariage homosexuel ?
Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'effectivement, on nous a fait un procès d'intention avec cette phrase. On peut juger qu'elle est malhabile, on peut juger que ce n'était pas idéal de l'ajouter dans ce texte, vu les réactions qu'elle a suscitées et vu le fait que ça a focalisé le débat, notamment au Conseil national, que sur ce sujet, alors que notre initiative est une initiative essentiellement fiscale. Parallèlement aussi en matière d'assurance sociale. Et c'est pour ça que moi, j'ai présenté au Conseil des États un contre-projet sans cette phrase sur le mariage pour dire parlons du fond. Le fond, c'est est-ce qu'on veut une imposition commune des couples et des partenaires enregistrés avec une rectification de cette inégalité de traitement ou bien est-ce qu'on veut une imposition individuelle ? Et puis, même sans la phrase sur le mariage, les opposants qui veulent une imposition individuelle, on l'a bien entendu, ont rejeté ce contre-projet. Donc, ça montre bien que la phrase, ce n'est pas l'essentiel de ce débat. Mais je comprends les réactions, d'ailleurs, j'en ai discuté hier soir avec l'association Juraguet. Cette définition correspond au droit actuel et à la jurisprudence actuelle en droit suisse. Donc elle a rien de révolutionnaire, j'entends, et de rétrograde par rapport au droit actuel. Et il y a une initiative parlementaire des Verts libéraux qui est en cours de traitement au Parlement. Cette initiative parlementaire a déjà été acceptée par les deux commissions des affaires juridiques, donc qui veut l'union civile ou un pacte de civil de solidarité, aussi bien pour les homosexuels que pour les hétérosexuels. Il parle d'une modification de la Constitution pour ce faire, et donc le peuple suisse aura à voter sur cette définition du mariage dans tous les cas.
Didier Berbera se focalisait sur cette définition du mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. C'est une stratégie dans le but de faire échouer le texte du PDC.
Par qui ? Une stratégie de qui ?
Par les opposants au texte.
Non, ce n'est pas nous qui avons mis cette phrase, parce que...
Ouais, mais comment vous focalisez dessus ?
On a demandé qu'on la supprime, cette phrase, dans le contre-projet, parce que Mme Seydoux dit que ça, c'est essentiellement fiscal, ou que fiscale cette initiative. Quand on dit dans la première phrase « le mariage est l'union durable et réglementée par la loi d'un homme et d'une femme », point, on aurait pu arrêter et puis recommencer directement en disant « au point de vue fiscal, le mariage constitue une communauté économique et il n'y a pas de pénalisation et ça aurait suffi ». Donc c'est, à mon avis, une sorte de provocation, c'est visiblement le PDC qui a voulu travailler, qui a voulu faire en sorte d'attirer les bonnes grâces des milieux les plus conservateurs, et Dieu sait s'il y en a encore dans ce parti, dans certains cantons, et aussi les milieux de l'UDC. Et c'est une stratégie qui a été voulue. Ma foi, maintenant, on ne peut pas regretter cette stratégie. Nous, simplement, ça nous pose un problème. Je l'ai déjà dit, c'est les pertes fiscales, parce que lorsqu'il y aura pertes fiscales, il faudra savoir comment on fait pour absorber ces pertes fiscales avec le frein aux dépenses. Ça veut dire que ce sera des baisses dans des prestations, d'autres prestations. Et puis, il y a cette phrase qui, à mon avis, est inutile et qui est une phrase qui fleure bon les années 1910-1920.
Cette phrase n'empêche pas le droit au mariage homosexuel et n'empêchera pas la population, dans un délai relativement bref, je pense, de se prononcer sur ce mariage homosexuel.
Mais pourquoi le mettre dans la Constitution ? Parce que simplement,
écoutez,
si on le met dans la Constitution...
Écoutez, M. Berbera, ce n'est pas moi qui ai rédigé le texte. Donc, j'ai proposé un contre-projet direct dont vous n'avez pas voulu non plus sans la phrase. Donc voilà, maintenant, il y a cette phrase-là, mais dire que ça empêche le mariage homosexuel, oui, je pense que c'est faux.
Juridiquement, ça l'empêche.
Non, parce qu'on va voter sur ce texte, d'une part, et puis ensuite, on va voter sur l'initiative des Verts libéraux, qui, si elle est acceptée, modifiera la définition du mariage, et par conséquent, la Constitution sera modifiée également. Et vous savez très bien, puisque vous êtes un brillant juriste, que ça ne se posera aucun problème.
Alors, nous arrivons déjà gentiment au terme de ce débat, mais avant de conclure, vous aurez chacun 20 secondes pour convaincre les indécis à voter en faveur ou contre cette initiative. Honneur aux dames, Anne Seydoux, c'est à vous.
Bien, je pense qu'il y a une inégalité de traitement entre les couples mariés, les partenaires enregistrés, les concubins, sur le plan fiscal et des assurances sociales, qui est attestée depuis très longtemps. Cette initiative donne la possibilité de mettre un terme à cette inégalité de traitement, et je pense que c'est une bonne chose que de rétablir le droit pour les couples mariés et les partenaires enregistrés à être taxés de manière équitable.
20 secondes maximum pour vous, Didier Berberin.
Bon, je recommande le non, parce que simplement, il y a une définition trop restrictive du couple qui bloque les choses, parce qu'en fin de compte, il y a une impossibilité de l'imposition individuelle qui est la seule solution pour rétablir l'équité entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas.
Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Vous pouvez retrouver ce débat dans le courant de la soirée en podcast sur notre site internet. Nous concluons ainsi notre série consacrée aux quatre objets fédéraux soumis au peuple le 28 février. Très belle soirée à tous.
Spéciale votation.